Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 2 décembre. 12 décembre plutôt, avec vous Jean-Noël Ducasse pour une heure en français. Au cours de cette émission, le journal, les sports, le point sur le référendum en Nouvelle-Calédonie et le personnage de la semaine. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce 12 décembre, le nombre de morts continue d'augmenter dans 6 États des États-Unis à la suite d'une tornade. La Nouvelle-Galles du Sud confirme la première hospitalisation en Australie à cause du variant Omicron. Et on vote en Nouvelle-Calédonie ce dimanche pour le troisième et dernier scrutin du processus de référendum. Aux USA d'abord, avec près de 80 personnes qui ont été tuées, pour la plupart dans le Kentucky, lors du passage d'une tornade. Les intempéries ont frappé durement plusieurs autres États du sud du pays. Analyse de ce phénomène avec Jérôme Lecoux, prévisionniste de Météo France. Il est sur Radio France Internationale.
Au niveau météorologique, on était dans une situation qui était assez classique pour avoir des orages hein, de grande ampleur qui ont pu comme ça sillonner plusieurs états. On avait une incursion d'air froid en altitude de manière assez classique à cette époque-là, qui s'est engouffré un peu à l'est des Rocheuses, hein, qui a donc canalisé un peu la trajectoire et qui est venu se mettre en phase avec des remontées d'air chaud tropical qui provenaient du golfe du Mexique. On avait une dépression en basse couche donc qui a généré une cyclogénèse, donc c'est-à-dire la formation d'une perturbation pluvio-orageuse. On avait un très fort cisaillement de vent sur les premiers kilomètres de l'atmosphère, si bien qu'on a eu la formation de ce qu'on appelle une supercellule, même plusieurs supercellules en fait. C'est vraiment des nuages d'orage qui peuvent avoir jusqu'à 100-200 kilomètres hein, de taille et qui vont ainsi se propager pendant plusieurs heures. On est probablement là sur ce qu'on appelle une tornade de type F4 ou F5, hein, donc ça veut dire des vents qui ont très certainement dépassé les 250 km/h.
En Australie, le Premier ministre Scott Morrison a visé la candidature des candidats indépendants aux prochaines élections fédérales, affirmant que ce ne sont que les voix des travaillistes et des Verts qui ne se présentent qu'au siège tenu par les libéraux, soutenu par, je cite en gros, financement. La députée indépendante Zali Stegall, qui a évincé l'ancien Premier ministre Tony Abbott de son siège à Warringah, en Nouvelle-Galles du Sud, a rejeté cela, affirmant que Scott Morrison n'avait pas compris la frustration de nombreux anciens électeurs libéraux face au pivot du parti vers la droite politique, surtout sous sa direction. S'adressant sur SBS News, Madame Stegall a également souligné que sa victoire aux élections fédérales de 2019 était le résultat d'une campagne populaire et non de gros sous.
I can assure you when I vote as an independent, I vote for Warringah. I'm a front for no party. And it's actually with the assistance of hundreds of people within my community that I am in Parliament. I note that Scott Morrison is not out there calling out Clive Palmer's $87 million. And you know the reason why is because at the end of the day, even though all the ads say don't trust Liberal and Labor and Greens and all of that, the preferences are likely to flow back to Liberal. So Scott Morrison's not in a hurry to call out the big money behind UAP.
Le coronavirus en Australie, les temps d'attente pour les injections de rappel du vaccin COVID-19 seront réduits de 6 mois après une deuxième vaccination à 5 mois. Le gouvernement fédéral dévoilera ses plans ce dimanche et agit sur les conseils de ATAGI, le groupe consultatif technique australien sur la vaccination. Cela signifie que des millions d'Australiens pourront recevoir un rappel plus tôt avec l'option du vaccin Pfizer ou Moderna. Les autorités sanitaires du territoire du Nord ont resserré les restrictions Covid dans deux communautés aborigènes à la suite de détection du virus dans des échantillons d'eau usée. Le territoire du Nord a enregistré une nouvelle infection au Covid-19. Un homme d'une vingtaine d'années connecté au cluster de Catherine qui compte désormais 68 cas. Le chef de la santé par intérim, Charles Payne, a déclaré que le Covid avait également été détecté dans des échantillons d'eau usée à Alice Springs, ce qui inquiète les autorités.
With respect to Alice Springs, we can't exclude that there is somebody in the community that is positive. And so, as the minister has said, we must be very cautious over these next 24-48 hours. We are expecting more wasteful results to come back today, later today, perhaps this evening, and that will help us decide what to do next. But please, in Alice Springs, do not be complacent. We may have a positive case in the community. Please come forward and get tested.
L'Australie occidentale va resserrer les restrictions frontalières avec le Queensland à partir de demain, lundi. Les visiteurs de cet État devront être mis en quarantaine pendant 14 jours. Les voyageurs entrant dans le WA devront être entièrement vaccinés, subir un test de dépistage de COVID-19 à leur arrivée et se mettre en quarantaine pendant 14 jours. Le chef de l'Australie occidentale, Mark McGowan, déclare qu'il fait preuve de prudence et renforce les contrôles aux frontières au milieu de la montée en puissance d'Omicron. Il devrait fixer une date pour la réouverture de la frontière de l'État dans les prochains jours. Le président américain Joe Biden a déclaré avoir averti son homologue russe Vladimir Poutine que les conséquences d'une éventuelle invasion de l'Ukraine seraient dévastatrices pour la Russie. Le président Biden a rejeté les suggestions selon lesquelles les États-Unis envisageaient d'envoyer des troupes de combat terrestres en Ukraine.
They never were on the table. And are you ready to send American troops into war and go into Ukraine to fight Russians on their battlefield? Look, here's the deal. I've made it absolutely clear to President Putin, it's the last thing I'll say, that if he moves on Ukraine, the economic consequences for his economy are going to be devastating. We will find it required that we'll have to send more American and NATO troops into the eastern flank, the B9, all those NATO countries where we have a sacred obligation to defend them against any attack by Russia.
Le ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a ouvert le sommet du G7 à Liverpool avec des commentaires sur la résistance aux agresseurs. Madame Truss et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se sont rencontrés hier samedi et ont exprimé leur inquiétude face à la montée de troupes russes à la frontière ukrainienne. Au cours de la réunion de 3 jours, les ministres des Affaires étrangères du G7 discuteront de la reprise économique après la pandémie, de la santé mondiale, des droits de l'homme, des pourparlers nucléaires avec l'Iran et de la technologie. Madame Truss déclare que les pays du G7 doivent organiser des défenses face à l'hostilité.
We need to defend ourselves against the growing threats from hostile actors. And we need to come together strongly to stand up to aggressors who are seeking to limit the bounds of freedom and democracy. To do this, we need to have a strongly united voice. We need to work to expand our economic and security partnerships around the world.
On vote en Nouvelle-Calédonie ce dimanche pour le 3e et dernier scrutin du référendum. Tout le monde ne peut pas voter sur la question « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?» Explication de Marie Casadebé pour RFI.
Seuls les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale pour la consultation peuvent voter. Ils sont un peu plus de 185 000 et remplissent certains critères. Ils justifient d'une résidence continue en Nouvelle-Calédonie depuis au moins le 31 décembre 1994, bénéficient du statut civil coutumier kanak ou bien sont nés en Nouvelle-Calédonie et y ont leurs intérêts matériels et moraux. Cela exclut de fait plus de 35 000 électeurs de la liste électorale valable pour les autres élections, présidentielles, législatives ou encore municipales. municipale, surtout des Européens arrivés dans l'archipel après 1994. Ce corps électoral spécifique au référendum est le fruit de l'accord de Nouméa de 1998. Il a pour but d'éviter le droit de vote des résidents installés récemment et donc de contenir, je cite, la colonisation de peuplement dénoncée par les indépendantistes. L'équilibre des forces doit rester le même qu'au moment de la signature de l'accord. Cette liste fait régulièrement débat, certains Calédoniens dénonçant leur exclusion. Elle sera de toute façon caduque à l'issue de l'opération de vote, quels que soient les résultats.
Et tout à l'heure dans l'émission, notre collègue Christophe recevra Brigitte Wapp de Calédonie Première pour le point sur ce scrutin. En France, toujours Valérie Pécresse, candidate des Républicains, a lancé sa campagne à l'occasion d'une réunion publique à la Mutualité à Paris hier samedi. Reportage Valérie Gasse, RFI.
J'ai une bonne nouvelle. La droite est de retour.
Valérie Pécresse annonce la couleur dès les premiers mots et forte d'une entrée en campagne qui lui a permis de bondir dans les sondages, elle désigne son adversaire.
Les Français l'ont compris, ce sera Emmanuel Macron ou nous.
Emmanuel Macron en ligne de mire, la candidate des Républicains a essayé de montrer sa différence avec le président du « et en même temps ».
Pour gagner, pas de zigzag. Je suis gaulliste, libérale et sociale. Ma droite est franche. Et mon projet est radical, car la situation du pays l'exige.
Et puis Valérie Pécresse appuie là où ça fait mal aux électeurs de droite en rappelant les propos d'Emmanuel Macron sur la colonisation en Algérie.
Emmanuel Macron est coupable d'avoir accusé notre pays d'avoir commis un crime contre l'humanité. Un président ne devrait jamais dire cela.
Face à lui, Valérie Pécresse joue la carte femme et donne à son projet une touche inattendue de douceur.
Je suis aussi venue vous parler de tendresse. Retisser nos solidarités, retendre notre attention aux plus fragiles, c'est plus qu'un projet politique, c'est un projet de vie.
Promettre de la tendresse et de la protection, c'est aussi comme ça que Valérie Pécresse espère séduire les Français.
En Afrique, un tribunal du Bénin a condamné l'un des principaux opposants du président Patrice Talon pour complicité d'actes de terrorisme. Rekia Madougou a été condamné à 20 ans de prison à l'issue d'un procès que ses avocats ont dénoncé comme un coup politique. Le président Talon a nié avoir ciblé des opposants politiques ou violé les droits humains. Des membres de la diaspora australienne de Birmanie appellent le gouvernement australien à imposer des sanctions ciblées aux chefs militaires de leur pays. Cela survient au milieu de l'indignation croissante suscitée par le massacre présumé par l'armée de 11 villageois, dont 5 enfants dans le nord du pays. Les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions liées aux violations des droits humains dans ce pays d'Asie du Sud-Est. La Birmane Monzin, qui vit à Sydney, a déclaré que la ministre australienne des Affaires étrangères, Mary Spain, devrait prendre des mesures urgentes.
If Australia government does not action, does not do anything and continue to silence or keep giving on making excuses, they are saying that they don't care about the human rights. They are going against the people in Burma. They are going against the United Nations guiding principle. They are going against everything that, you know, this Australia country really value of the democracy and freedom.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 27 degrés, Adélaïde 35, Melbourne 25, Hobart 20, Canberra 21, Sydney 23, Brisbane 28, Cairns 34, Darwin 35, Alice Springs 35 également. Un rappel des grands titres de ce 12 décembre, le nombre de morts continue d'augmenter dans 6 États des États-Unis à la suite d'une tornade. Et on vote en Nouvelle-Calédonie ce dimanche pour le troisième et dernier scrutin du référendum sur l'autodétermination. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
journal des sports de ce dimanche avec d'abord un retour sur la nouvelle d'Amélie Mauresmo comme directrice de Roland-Garros. Cédric de Oliveira, Radio France Internationale.
Amélie Mauresmo, qui a d'abord été une joueuse accomplie, elle a régné un temps sur le circuit WTA, ancienne numéro 1 mondiale. Elle reste d'ailleurs la joueuse française la plus titrée depuis les débuts de l'ère Open, avec deux trophées du Grand Chelem à son actif, l'Open d'Australie et Wimbledon, remporté en 2006, mais aussi une victoire au Masters l'année précédente. Mauresmo a aussi été précurseur, notamment en révélant son homosexualité à seulement 19 ans, une première pour une sportive française. Après sa carrière de joueuse, elle a entamé plusieurs casquettes, celle de consultante puis celle d'entraîneur, en cassant là encore quelques barrières. De 2014 à 2016, elle a ainsi collaboré avec le Britannique Andy Murray, l'un des grands noms du circuit. Une incongruité dans un milieu plutôt masculin. Capitaine de l'équipe de France de Fed Cup qu'elle a menée jusqu'en finale, Mauresmo s'était ensuite fait plutôt discrète, hormis sa collaboration avec le joueur tricolore Lucas Pouille. En prenant la tête du tournoi de Roland-Garros, elle devient là encore la première femme à occuper ce poste, qui cette fois l'éloignera un peu plus des cours.
Et on écoute maintenant la réaction d'Amélie Mauresmo.
C'est vrai que toute ma vie, j'ai cassé un peu les barrières, j'ai repoussé, j'ai cassé des codes, j'ai repoussé certaines limites, j'ai fait changer à certains moments même les mentalités chez beaucoup. C'est évidemment une fierté, ça continue d'être ça aussi un peu le fil conducteur de ma vie. Finalement, peut-être presque malgré moi, mais je suis heureuse et fière évidemment que ça se passe comme ça.
Le Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi, c'est soit Max Verstappen ou Lewis Hamilton qui remportera le championnat de 2021 après cette course. Analyse avec Antoine Grenier et Martin Guèze pour RFI.
Et d'ailleurs, les deux prétendants ont décidé de se rendre coup pour coup encore une fois, histoire de boucler une saison pas loin d'être historique. Verstappen le plus rapide aux premiers essais libres, Lewis Hamilton en tête ensuite de la deuxième séance, avant que finalement le Néerlandais ne se juge la pole position. Autant dire que dimanche, Max Verstappen aura autant les yeux sur le premier virage que dans ses rétroviseurs. Lewis Hamilton, deuxième sur la grille pour 371 millième, aura le pilote Red Bull en ligne de mire. Et oui, c'est de la Formule 1, c'est précis. Le champion du monde qui connaissait d'ailleurs la supériorité de son adversaire et de son équipe sur cette séance.
Ils étaient tellement rapides aujourd'hui dans leur dernière tentative, on n'a pas réussi à suivre, même si on a fait du bon boulot. Ils ont l'air très très forts. Ça ne me surprend pas tant que ça, vu qu'au dernier Grand Prix, ils étaient plus rapides de 4 dixièmes. Leur voiture est vraiment très rapide, et si tout leur sourit, ils seront devant.
Une manière aussi de mettre subtilement la pression sur son adversaire direct, un grand classique chez Hamilton.
Un duel qui vaut aussi par la personnalité des deux protagonistes, Lewis Hamilton d'un côté, Max Verstappen de l'autre.
King Lewis et Max la menace, le Britannique, 7 fois champion du monde. Des duels, il en a eu un certain nombre, gagné ou perdu dans sa carrière en Formule 1, contre Kimi Raikkonen en 2007, Felipe Massa en 2008, ou contre son propre coéquipier Nico Rosberg entre 2014 et 2016. En termes d'expérience, Hamilton n'a pas d'équivalent ou presque sur la grille, et ça l'a aidé à renverser la situation sur la dernière partie de saison. Distancé par son rival, il a sorti les crocs. T'es pas content ? Triplé, 3 victoires de suite pour devenir co-leader du championnat. En face, Max Verstappen, tu lui parles pas d'âge. Max Verstappen, 24 ans, un talent certain, couvé par Red Bull, où il est l'incontestable premier pilote, grâce notamment à sa haine de la défaite. De quoi donner un duel épique, que ce soit à Bahreïn, à Imola ou en Arabie Saoudite cette saison, voire au-delà des limites lorsqu'Hamilton a sorti Verstappen à Silverstone, ou que Verstappen lui-même a accroché son rival à Monza, abandonnant lui aussi au passage.
On passe au foot en France avec la victoire de Montpellier hier contre Brest, 4-0. Reims s'est imposé contre Saint-Étienne 2-0. En Angleterre, il y avait 5 matchs hier. D'abord, Manchester City, premier au classement, a battu Wolves 1-0. Philippe Auclair sur la performance de Manchester City.
Le match avancé de cette journée, qui était entre Brentford et Watford, puisque c'est à la 96e minute que Brian Mbeumo de Brentford avait donné la victoire aux Bees contre les Hornets. Ça a continué avec Raheem Sterling qui a marqué le penalty du 1-0 de la victoire de Manchester City. On n'allait pas s'arrêter en si bon chemin, donc Mohamed Salah y a été du sien également. C'est le penalty de la victoire 1-0 sur Aston Villa, l'Aston Villa de Steven Gerrard qui a retrouvé Anfield bien évidemment. Encore mieux à Chelsea, où là, c'est pas un, c'est deux pénaltys et qui ont permis à Chelsea de s'en tirer avec pas mal de chance, il faut le dire, face à un excellent Leeds, de penalty signé Jorginho. Et puis on a terminé ça ce samedi avec Cristiano Ronaldo depuis les 11 mètres, qui a marqué le but de la victoire, 1-0 sur penalty, face également à Norwich, donc à Carrow Road à l'extérieur. Donc oui, c'est vraiment la journée des penalties. Et je pense qu'on ne va pas parler de grand-chose d'autre, je vous dirais, dans les programmes de la télévision anglaise et dans les gazettes du dimanche matin. C'est vraiment ça qui est le fait marquant, je dirais, de la journée. Parce que sinon, en effet, comme vous le disiez, c'est le statu quo en tête, très resserré, puisque Manchester City, c'est 38 points, Liverpool 37 et Chelsea 36. Tandis que Manchester United, bien évidemment, se replace avec la deuxième victoire du règne de Ralf Rangnick.
Et puis dans les autres matchs, Chelsea s'est imposé contre Leeds 3-2. Arsenal a battu Southampton 3-0. Liverpool s'est imposé contre Aston Villa 1-0. Et enfin, Manchester United s'est imposé contre Norwich 1-0. En Espagne, Séville, deuxième au classement, a battu l'Athletic Bilbao 1-0. En Allemagne, le Bayern de Munich a gagné contre Mayence 2-1. Et puis le match nul entre le Borussia Dortmund et Bochum, un but partout. En Italie, l'AC Milan et Udinese ont fait match nul, un but partout. La Juve de Turin et Venise, même score, un but partout. Un mot du championnat de handball avec la France qui a battu la Serbie 22-19 et la France part en quart de finale. Joanne Burgel, RFI.
Les Françaises qui se sont qualifiées pour les quarts de finale du Mondial après leur victoire difficile contre la Serbie 22-19. Les Bleus ont su retourner le match dans les derniers instants. Le sélectionneur Olivier Crumbles dresse un premier bilan et pointe le parcours impressionnant des Françaises depuis le début de cette compétition.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'on a gagné facilement 3 matchs, un peu plus difficilement, et que celui-là, on a encore gagné 3 buts. Donc, il n'y a pas grand monde qui a 5 victoires, avec un parcours de folie. Ne l'oublions pas, on joue que des équipes des Jeux Olympiques, de très belles équipes. On s'en sort très bien, et maintenant, on va se lâcher.
Olivier Crumbles au micro de nos confrères de Radio France. Le dernier match du tour principal, ce sera lundi, face à la Russie.
Et maintenant, je vous propose ce reportage de foot. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations doit débuter le 9 janvier prochain au Cameroun. Amélie Tulé, RFI.
Pour former une huée d'honneur aux invités de la cérémonie, plusieurs groupes de jeunes comme celui de Valérie se sont donné rendez-vous sur l'esplanade du Palais des Sports de Yaoundé.
Nous sommes trop contents, nous sommes venus faire la fête avec notre mascotte.
Un peu plus loin, personnage immanquable, le général Avatar, une mascotte vivante, grimée en lion et travestie en femme, incontournable des rendez-vous sportifs camerounais.
Mola, c'est la mascotte, le champion des champions, le numéro 1 de la CAN. Alors, pour l'encourager, pour que la fête soit belle, c'est comme ça.
Face à la tente blanche qui protège les invités, sur un écran géant, le clip de l'hymne officiel de la compétition est projeté. Roland Juliensa est à l'origine de la chanson « Fou de foot ».
Et le Cameroun est une terre de foot, tout le monde y habite, tout le monde est coach, tout le monde est joueur, tout le monde sanctionne. Le foot se joue au village, en ville, dans la rue. Il fallait démontrer effectivement que nous sommes fous de foot à travers une chanson.
En fin de cérémonie, Mola fait son apparition. Mola, ça veut dire l'ami, le frère, par extension le voisin avec qui on partage la même ferveur le temps d'un match. Forcément, c'est un lion aux couleurs du Cameroun. Maillot vert, short rouge, chaussette jaune. Détail à la fois stylistique et politique. Des manches en togou, tissu de la région du Nord-Ouest. Le ministre des Sports parle d'une mascotte symbole dans une nation dont la légitimité, l'unité et l'indivisibilité sont sans équivoque.
Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français et dans quelques instants, on retrouve Brigitte Wapp, journaliste à Calédonie la Première et envoyée spéciale dans le nord du pays pour couvrir le troisième et dernier volet du référendum d'autodétermination. Elle sera au micro de notre collègue Christophe Mallet.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Allez, aujourd'hui, jour important hein, pour la Nouvelle-Calédonie. On est en ligne avec Brigitte Wapp. Brigitte est journaliste à NC Première, donc en Nouvelle-Calédonie. Je crois que vous êtes pour le moment dans le nord de l'île. Merci Brigitte de nous donner un petit peu de temps aujourd'hui.
Oui, bonjour.
Alors, moment important pour la Nouvelle-Calédonie, on le sait, on le voit d'ici en Australie, c'est vraiment un moment qui a été attendu depuis des dizaines d'années, hein, des décennies. La température sur le terrain aujourd'hui, Brigitte, en jour de référendum sur l'autodétermination, vous sentez quoi sur le terrain aujourd'hui, Brigitte ?
Eh bien, d'une façon assez générale, c'est calme. On a l'État français qui a envoyé quand même beaucoup de militaires. Il y en avait déjà pas mal avant, mais là, ils ont envoyé 2000 hommes de plus. Donc, on en voit pas mal circuler un peu partout. Des gendarmes qui, je pense, ont comme consigne un peu de surveiller un peu ce scrutin.
Alors, on sait que les derniers mois ont été compliqués hein, à travers la planète, y compris donc en Nouvelle-Calédonie. Le Covid a joué quand même beaucoup sur énormément de choses dans la vie des gens. Et on sait qu'aujourd'hui, les indépendantistes, en fait, avaient demandé le report de ce référendum. Est-ce que vous croyez que ça risque de poser un problème sur le jour d'après, sur l'après-référendum, sur l'après-référendum d'autodétermination? Est-ce que ça peut invalider dans la tête de certains le référendum qu'on est en train de voir aujourd'hui?
Alors, ce qui se passe, c'est que ce troisième référendum et dernier référendum de l'accord de Nouméa est prévu dans les accords comme étant le dernier des trois référendums de l'accord. Ce qui avait été décidé lors du début d'année, c'était donc les indépendantistes, pour refaire un peu, les indépendantistes avaient fait, il fallait demander que ce troisième référendum ait lieu avec une majorité des deux tiers du Congrès. Les indépendantistes avaient cette majorité, ont fait la demande que ce référendum soit organisé par l'État. Référendum après la date, il a été question de la date. Et dans l'accord de Nouméa, est bien stipulé que c'est l'État qui décide de la date. Alors, effectivement, les indépendantistes ne sont pas d'accord sur cette date du 12 décembre, d'une part parce que pour eux, c'est une période de deuil à cause des 270 morts, un peu plus de 270 morts que nous avons connus à cause de la crise sanitaire de Covid. Nous sommes toujours d'ailleurs en crise sanitaire, même si aujourd'hui les chiffres sont meilleurs. Il n'y a plus de décès depuis quelques jours, avec un taux d'incidence qui est assez bas. Et donc du coup, ce référendum est quand même maintenu par l'État, contre l'avis des indépendantistes qui ont décidé de ne pas participer. Donc nous, on s'attend aujourd'hui à ce qu'il y ait très peu de participation. On a vu, que ce soit en 2020 ou que ce soit en 2018, des scores assez impressionnants de participation avec des taux entre 80 et 90% de taux de participation pour un référendum, c'est énorme. Là, on s'attend quand même à un taux de participation qui va tourner autour de 50 à 60%, tout dépend de la mobilisation des loyalistes et du camp du non. En ce qui concerne l'après, c'est ce qui est difficile à dire. C'est aujourd'hui, nous avons l'Union calédonienne qui est un des partis indépendantistes qui siège au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui a déjà dit qu'il préférerait attendre que les présidentielles et d'avoir un nouveau président pour discuter de l'après. Ça, c'est la position de l'UC. Du FLNKS réuni au sein d'un collectif avec d'autres partis nationalistes, un collectif pour la non-participation au référendum de ce 12 décembre. Et pour l'instant, on n'en sait pas plus qu'on sait. De toute façon, c'est que le ministre des Outre-mer est arrivé le samedi 11 décembre et donc du coup reste là pour 5 jours. Que va-t-il faire? Va-t-il, j'imagine, essayer de prendre contact avec tous les différentes composantes du Congrès, les différents élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et des différents partis pour essayer de commencer à avancer sur les discussions de l'après? Mais est-ce que les indépendantistes vont vouloir discuter après un peu, entre guillemets, l'affront? Parce que pour eux, c'est un peu comme si ce référendum leur était volé avec cette non-participation.
Oui, tout à fait. Alors, on sait que c'est aussi une journée de recueillement. Est-ce que ça va être important, justement, cette journée de recueillement pour tout le camp nationaliste de peut-être de s'arrêter, de penser sur ce qui vient de se passer? Est-ce que ça va aussi aider, peut-être, à ce qu'il n'y ait pas forcément des événements ou des échauffourées qui éclatent à gauche, à droite?
Est-ce qu'il va y avoir des échauffourées? Non, on ne sait jamais trop. Les autres référendums nous ont montré qu'il y a eu des échauffourées, même si c'était un peu en marge, notamment à des endroits où d'habitude il peut y avoir des tensions et des blocages. C'est toujours à peu près les mêmes endroits au Mont-d'Orc ou comme à Païta, pas forcément sur toute la Calédonie, mais toujours un peu des endroits où il y a une jeunesse qui se cristallise un certain mécontentement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les indépendantistes ont appelé au calme. Ils ont appelé, et les coutumiers aussi ont fait des communiqués pour appeler au calme la population, et notamment la population kanak a respecté le jour du 12 décembre, a respecté ce référendum, les élections, même s'ils ne participent pas, mais qu'il n'y ait pas de violence. Maintenant, est-ce qu'ils seront entendus par une partie de la jeunesse qui se sent un peu souvent délaissée? Ça reste à le démontrer, on n'en sait pas plus aujourd'hui. En ce qui concerne cette journée de deuil, effectivement, je pense que la journée de deuil... qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'avoir une pensée particulière pour tous ceux qui nous ont quittés pendant cette crise sanitaire, dont on n'a pas pu faire le deuil correctement, puisque dans la société kanak, il y a des coutumes avec des échanges de dents entre les clans maternels et les clans paternels, et ça n'a pas pu se faire correctement, puisque on était limité en nombre de personnes. Donc c'est vrai que pour certaines familles, c'est peut-être un moment peut-être difficile, douloureux, mais voilà, c'est la crise sanitaire comme tout, dans tous les pays du monde que tout le monde a connu.
Ouais, tout à fait. Merci en tout cas, Brigitte, de nous avoir un petit peu éclairé sur ce qui se passe aujourd'hui donc sur le territoire calédonien. On vous souhaite bon courage et puis bonne chance à la Nouvelle-Calédonie.
Merci.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et maintenant, nous passons au personnage de la semaine, et c'est le nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz.
Eh bien, comme chaque dimanche, nous nous attardons à présent sur une personnalité en lien avec l'actualité. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Focus aujourd'hui sur Olaf Scholz.
Olaf Scholz, oui, le nouveau chancelier allemand qui a pris officiellement ses fonctions mercredi. Le passage de témoin avec Angela Merkel, la chancelière, qui elle était en poste depuis 16 ans. Passation qui s'est faite tout naturellement au Parlement, au Bundestag. Il y avait bien sûr beaucoup d'émotions dans l'hémicycle, de voir Angela Merkel tirer ainsi sa révérence. Elle a été longuement applaudie par tous les députés. Angela Merkel qui quitte la chancellerie et qui a souhaité bonne chance à son successeur. Travailler pour le bien de notre pays, a-t-elle glissé au nouveau chancelier social-démocrate Olaf Scholz. C'est une tâche passionnante et gratifiante, exigeante également, a-t-elle ajouté. Mais si on l'aborde avec joie, c'est peut-être aussi l'une des plus belles tâches possibles. Propos donc d'Angela Merkel. À 9 jours près, elle sera restée aussi longtemps au pouvoir qu'Helmut Kohl, chancelier, lui dans les années 80-90, de 1982 à 98. Une page qui se tourne assurément en Allemagne. Olaf Scholz, âgé de 63 ans, il devient le 9e chancelier de l'Allemagne d'après-guerre. Il a reçu la confiance de 395 des 736 députés du Bundestag. Autrement dit, il possède une majorité très large, plus de 200 sièges de marge pour cette coalition autour de lui qui réunit 3 partis et qui résulte des élections législatives de fin septembre. Son parti, à lui, Olaf Scholz, le SPD, social-démocrate, était arrivé en tête de ces élections législatives et il forme cette grande coalition avec les Verts, les écologistes et les libéraux du FPD.
Que peut-on dire de cette nouvelle équipe dirigeante et du gouvernement menée par Olaf Scholz ?
Bien, déjà pour la première fois, c'est un gouvernement paritaire, autant d'hommes que de femmes. Il a fallu faire des arbitrages, forcément, entre les trois partis de la coalition, sociaux-démocrates, verts et libéraux. Mais Olaf Scholz, il veut faire bouger les choses, il veut remettre l'Allemagne en marche, lancer des réformes, moderniser les infrastructures, numériser l'administration, toutes les questions aussi liées à l'environnement, au climat, avec les verts qui font partie, on l'a dit, de la coalition. Des réformes sociétales également, car si Angela Merkel est restée au pouvoir durant 16 ans, son règne s'est accompagné d'un certain conservatisme, d'une certaine frilosité. Elle a géré, au mieux, hein, l'Allemagne reste la quatrième puissance économique du monde, mais il y a aussi des signes, des indicateurs qui montrent que ce système-là, le système allemand, est en train de s'essouffler, qu'il a vieilli. Olaf Scholz s'est donné pour mission de donner une nouvelle dynamique globale au pays, le réformer comme l'avait fait au début des années 2000, avant Angela Merkel, Gerhard Schröder. Alors, il y a cette vision à long terme, mais Olaf Scholz, qui était vice-chancelier depuis 2018 et qui auparavant a dirigé également la ville d'Hambourg pendant 7 ans, il doit aussi répondre de façon très pragmatique aux urgences du moment. La crise sanitaire, notamment la pandémie Covid-19, avec des chiffres assez inquiétants en Allemagne depuis plusieurs semaines. Le nombre de cas explose littéralement ces derniers jours, jusqu'à 70 000 cas quotidiens Covid-19, plus de 500 décès par jour. Et vendredi, les députés allemands, la nouvelle assemblée, a voté une loi qui rend obligatoire la vaccination pour les soignants en Allemagne. Et Olaf Scholz a l'intention d'aller plus loin. Il veut étendre cette obligation vaccinale, à l'ensemble de la population.
Olaf Scholz, en tout cas, a tenu à montrer combien le lien avec la France était important à ses yeux. Il a rencontré le président Emmanuel Macron dès vendredi.
Oui, c'est un peu une tradition des deux côtés du Rhin, des deux côtés de la frontière franco-allemande. Quand un nouveau dirigeant est élu, il réserve sa première sortie à son voisin. Rappelez combien le couple franco-allemand est important pour la stabilité de l'Europe. Angela Merkel, elle, durant ses 16 ans de pouvoir, elle a eu affaire à Jacques Chirac, à Nicolas Sarkozy, à François Hollande, à Emmanuel Macron depuis 2017. Là, Olaf Scholz s'est rendu à Paris, au Palais de l'Élysée, vendredi, donc 2 jours après son intronisation, un déjeuner de travail avec le président français pour son premier déplacement à l'étranger. Il faut savoir qu'à partir de janvier, la France présidera l'Union européenne pour 6 mois. Les deux hommes, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, ils ont tenu une conférence de presse commune après leur déjeuner. Il a été question de budget, des finances, de l'Europe. Il s'agit, a déclaré Olaf Scholz, il s'agit de maintenir cette croissance qui a été engendrée par le pacte de relance, comprendre ces dizaines et dizaines de milliards qui ont été débloqués par l'Union européenne pour soutenir l'économie des pays membres depuis le début de la crise sanitaire. Olaf Scholz a rappelé qu'il fallait travailler à la solidité de nos finances, a-t-il dit, un message de rigueur budgétaire. Paris et Berlin et Paris. Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont néanmoins des divergences sur le nucléaire, notamment. L'Allemagne a prévu de fermer ses dernières centrales dans les prochains mois, d'accélérer le processus. Et Olaf Scholz, sur ce dossier, il est sous la pression des Verts, qui font partie de son gouvernement. Il ne fera donc pas marche arrière. L'Allemagne qui tourne définitivement le dos au nucléaire, à l'inverse, Emmanuel Macron a rappelé ces derniers mois que l'énergie nucléaire faisait complètement partie de l'équation énergétique de la France pour les prochaines décennies. C'est son souhait, en tout cas, qu'il fallait s'appuyer sur ce savoir-faire pour produire de l'électricité en parallèle du développement des énergies renouvelables comme les éoliennes.
Merci Émile pour ce coup de projecteur sur Olaf Scholz. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français. Et nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous mardi à 13h. Belle journée à toutes et à tous. We'll be right back.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.